Bonsoir à tous, bienvenue pour cet éclairage numéro 10. Alors ce soir un épisode tranquille et pas en live, et heureusement je vais dire. On va essayer de faire moins long que le dernier éclairage, parce qu'on a bien blablaté mine de rien. Avec moi, toujours et encore des invités, et donc avec moi ce soir je vais commencer par celui qui est déjà venu, Irslo.
Bonjour,
et donc,
bonjour
t'es de
à
retour.
Tous. Oui, oui, oui. Merci de me revoir invité.
Et vous ne les connaissez peut-être pas, j'ai avec moi Anthony Stark, ou Stark, si je peux t'appeler comme ça.
Salut tout le monde, Tony Stark. Ravi d'être là, encore merci pour l'invitation et désolé pour le retard encore une fois, mais le 65 est on fire,
ou plutôt... et en alerte rouge.
Underwater, ouais, absolument.
Et avec moi, notre Kirby, ou Kirby, je peux t'appeler Kirby, oui.
Oui, mais tu peux même dire Nicolas, c'est encore
Nicolas,
plus simple.
Alors.
Tout le monde m'appelle par mon prénom.
Et donc Nicolas, Nicolas avec nous.
Ouais, bonsoir, merci pour l'invitation également. Et contrairement à chez vous, la Belgique, on crame et je ne vous promets pas de survivre jusqu'à la fin de l'émission tellement il fait chaud.
Ah oui, 35 degrés, oui.
Ah, oh là, bon. Il est descendu à 33 entre temps, mon thermomètre.
Non, ça va, la nuit va être fraîche. Alors, de quoi qu'on va parler ce soir? Moi, je vais commencer par... vous allez le découvrir juste après. Tiens, je vais passer en premier, il n'y a pas de raison. Monsieur Stark va nous parler de...
Alors moi je vais vous parler d'un vieux comics, The Defenders, voilà, parce que je trouve que le Hulk qu'on a connu dans Avengers est pas mal inspiré de celui-là, donc je vous en toucherai deux mots.
Irso.
Oui, moi je vais vous parler littérature et d'une saga, d'une série.
Une célèbre octologie.
Comme voilà.
Et on va terminer par Kirby, Nicolas, donc qui va nous parler de...
Doctor Who, la dernière saison, parce que je suis aujourd'hui tombé sur un article avec lequel j'étais un peu plus d'accord et... J'avais envie de revenir un petit peu dessus, un petit peu sur l'histoire du docteur.
Très bien. Bon bah ça fait un bon programme. On est parti.
Allez.
C'est parti.
Et donc, jingle pourri. Alors, donc moi, je vais vous parler d'un petit quelque chose, je vais essayer de deviner. Alors, à votre avis.
Retour vers le futur.
Ah oui, c'était la trilogie.
Ma trilogie de films préférés.
Mais oui.
Je vais pas vous parler de la trilogie. Je vais vous parler de Back to the Future, le jeu vidéo. Je sais pas si vous y avez joué.
Sur Master System.
Ah non, sur PC.
Ah, parce qu'il a existé, je crois, sur Master System ou Mega Drive.
Pas encore eu le temps, il est sur mon PC, je dois y jouer, c'est dans ma liste.
Mais il date de quelques années celui-là, je me trompe.
Il date d'il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, oui, par City Games.
Ouais, Telltale.
Telltale, pardon.
Parce que comme je l'ai dit dans le dernier éclairage, j'ai acheté le Weekly Humble Special Telltale. Oui, ou le Weekly Bundle, avec plein de jeux Telltale. Donc cette fois-ci, je vais vous parler du jeu Back to the Future. Donc pour préciser, le Humble Bundle est un package de jeux auquel vous donnez ce que vous voulez. Donc là, j'avais donné 10€ pour 7-8 jeux, donc au final, je m'en suis bien sorti. Et donc, il y a aussi le Humble Indie Bundle pour ceux qui veulent, avec que des jeux indés. Et donc déjà pour commencer, Back to the Future, c'est un jeu développé par Telltale, édité par Deep Silver, et c'est du point and click, donc si vous aimez ça. Et donc c'est un jeu en 5 parties, et donc les parties se suivent, et ça dure environ, chaque partie dure environ 3 heures, donc 3-4 heures, donc au final ça peut donner au max une bonne quinzaine d'heures, ce qui est pas mal quand même. Donc rien d'étonnant, parce que Telltale, de toute façon, a toujours fait du point and click, c'est sa spécialité. Il y avait déjà eu le Sam & Max, et puis, je sais pas si vous avez joué, le The Walking Dead.
Ah, bien sûr.
Ah, formidable,
ah,
formidable.
Extraordinaire.
Je pense que j'en parlerai un de ces quatre aussi, parce que...
Un des gros cartons de l'année en jeu vidéo, hein.
Un magnifique jeu, franchement. Foncez l'acheter.
Et même si vous êtes pas anglophone, parce qu'il va sortir en français bientôt.
Ouais. Et en en galette aussi, directement, il me semble. Non, moi je me trompe.
Si, absolument. Ouais. Je confirme.
Le premier processeur d'iPad aussi, important. Il est sur iPad
et
il est facilement jouable.
Il était sur iPad, mais apparemment la jouabilité était peut-être pas top.
Moi j'ai joué sur iPad.
Windows, Mac, PlayStation, Xbox, iPad, iPhone.
Je trouvais très pratique sur iPad. Là. Le point and click se prête bien au touch, je trouve.
Et donc moi j'ai joué sur PC, donc avec la souris, c'était royal. Donc pour ce qui est de l'histoire, donc, ça se passe quelques mois après la fin du troisième film, donc c'est une continuité. Le Doc n'est pas revenu depuis, il est parti en vadrouille dans le temps, et pendant que Marty est chez lui, il a repris sa petite vie. Mais un jour, Marty découvre que toutes les affaires du Doc, qui est parti disparu depuis, vont être vendues aux enchères. J'ai essayé de pas trop spoiler, hein. Ça c'est la première heure de jeu à peine, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, en visitant le labo du doc pour essayer de se sauver ce qu'il peut, on entend la DeLorean arriver, mais aucune trace du doc dans la voiture, seulement du chien, Einstein. Et donc, après enquête, on se rend compte que le doc est emprisonné en 1930, dans les années 30, en plein dans la prohibition qui a son importance pour la suite. Et il est aux prises avec un mafieux local, le fameux Kid Tannen. Donc on retrouve les Tannen, et ça, c'est une très bonne chose, forcément. Donc on voit la jeunesse d'Emmett Brown, on voit des nouveaux personnages secondaires arriver, même si les personnages secondaires sont assez gros au final, c'est le petit souci. Donc c'est plutôt cool de retrouver déjà Emmett Brown jeune, donc voir sa jeunesse, ses relations avec son père. On retrouve aussi les méchants Tannen, bien sûr, et...
Hey, McFly!
Ah, tout à fait, oui. Ils sont bons, là. On retrouve le fameux Biff Tannen, un petit peu débile, qui passe bien. Donc, autant les autres personnages qui gravitent, les personnages secondaires sont quand même pas très intéressants. Ils font un petit peu plante verte et ils servent uniquement pour certains passages. Bon, dans les personnages secondaires, on a un policier, on a une chanteuse de cabaret. Enfin, bref. Pas des personnages très très intéressants. Autant vous le dire tout de suite, le scénario ne vaut pas quand même ceux des films. Hein. Je pense qu'on est loin de la qualité des films. Sans être nul pour autant. Hein. Mais certaines fois, ça manque beaucoup de rythme et de pêche. C'est un petit peu lent des fois. Hein. C'est très lent à démarrer en tout cas. Autant les premiers épisodes du jeu sont sympas, parce qu'on a plein de clins d'œil au film. Autant le troisième épisode, j'ai beaucoup aimé, parce que bon, je ne sais pas trop spoiler. Dans le troisième épisode, on se retrouve dans un espèce de Hill Valley utopique presque orwellien en fait. Presque 1984. Donc c'est très très spécial. Je critique le scénar, mais c'est pas complètement n'importe quoi, parce qu'on retrouve quand même en consultant scénario le fameux Bob Gale. Vous savez qui c'est Bob Gale ?
Là, comme ça me vient pas.
Non, c'est celui qui était sur le scénar et le producteur des films, en tout cas. Donc, il est derrière pour essayer de superviser, pour chapeauter un petit peu le tout. Le scénario est bon quand même, mais ça vaut pas ceux des films. Même si je trouve qu'il y a une grosse faille, une grosse incohérence dans l'épisode 3, mais j'ai essayé de la laisser trouver quand vous y jouerez. Ça saute aux yeux en tout cas. Donc on retrouve quand même plein de références au film et ça fait super plaisir. Au début on a la guitare de Marty avec l'ampli qui éclate. On lance la radio, on entend Back in Time, donc très gros clin d'œil. Gros clin d'œil aussi sur la fin du premier épisode du jeu. Parce qu'on a une scène qui ressemble beaucoup. Vous voyez la scène où Marty est accroché à la voiture de Tannen en overboard et qui doit essayer de récupérer l'almanach. Voilà, donc grosse référence à cette scène-là. On peut choisir un nouveau nom d'emprunt aussi. Moi j'ai choisi Michael Corleone, forcément, avec la prohibition oui, et les mafieux. C'est... On retrouve les camions de fumier. Enfin, voilà. À un moment aussi, on essaie de rentrer dans un club de mafieux, puis on se vante d'avoir détourné un train, donc directe référence à l'épisode 3. Il y a plein de petites références, donc ça passe très bien quand même. Ça fait penser un peu à du fanservice, mais au final, quand on joue à un jeu Retour vers le futur,
c'est ce qu'on demande.
C'est ce qu'on demande de toute façon. Donc, c'est pas une débauche aussi de clin d'œil, ça reste quand même régulier, mais sans tomber dans la caricature. Quoi. Donc il faut savoir que le jeu est en VO sous-titré, donc il s'est sous-titré, donc ça va, mais si vous aimez les voix françaises, vous les trouverez pas. Telltale a pas pour habitude de faire les voix françaises pour les jeux. Mais on a quand même la voix originale de Christopher Lloyd pour Emmett Brown, ce qui est une très bonne chose.
Turbine, hein.
Lui. Ouais, il fait la voix du Joker, il fait la voix de... Je sais pas, il fait son nom.
Il en a fait plein. L'énumération serait longue et fastidieuse.
Mais c'est pas la voix de Michael J. Fox, par contre, pour Marty. Et ça, c'est vraiment dommage. Il fait une voix, mais en guest, il fait la voix de la famille McFly, mais il fait pas celle de Marty McFly, en fait. Ce qui est dommage. Mais c'est un imitateur qui fait la voix de Marty, mais il fait plutôt pas mal le boulot, ça agresse pas les oreilles. Pour ce qui est du gameplay, c'est vraiment pas compliqué, c'est même trop simple, on va dire. On se déplace avec les flèches, ou ZQSD, ça dépend comment vous jouez. On déplace le personnage avec la souris. On peut déplacer le personnage avec la souris, mais c'est quand même assez bof. Et donc on utilise la souris pour pointer les personnages, ou les objets. Et puis... Par contre, la maniabilité est quand même assez rigide, c'est assez décevant certaines fois. Caméra est quand même pas facile. Au final, on a une impression de liberté parce qu'on arrive dans Hill Valley des années 30, donc c'est beau, on a une grande place, la place de l'horloge de l'hôtel de ville, donc c'est beau, c'est chatoyant, mais au final, on retrouve des murs invisibles.
Et est-ce qu'il y a l'horloge sur la place de l'hôtel de ville ?
Oui, on la voit plusieurs fois. Ouais.
Et donc c'est une incohérence.
C'est pas une incohérence. C'est en 1880.
Oui. Je pensais avec le coup d'éclair.
Ah oui.
Non, elle fonctionne, mais elle est déjà construite.
Ça s'est passé. Mais le souci, c'est qu'on retrouve des murs invisibles et ça, c'est insupportable.
Ah. On arrive... À la sortie, à la périphérie de la ville.
On est sur la place de l'hôtel de ville. On essaye de se balader un petit peu et arriver au bout du trottoir, mur invisible. On peut pas aller plus loin et ça, c'est super frustrant. Quoi.
On n'a plus le droit de nous faire ça. C'est illégal. Ça devrait être illégal de nos jours. Hein.
Ah oui. C'est insupportable. Et aussi, par exemple, on veut traverser la rue, mais non, on peut traverser que sur les passages piétons. Et ça, c'est peut-être bête, mais du coup, ça nous fait faire un détour pour aller quelque part, parler à quelqu'un. C'est insupportable.
C'est un jeu qui incite à la sécurité routière.
Oui, surtout qu'il n'y a aucune voiture qui passe. Il y a une voiture qui passe de temps en temps, mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas le plus dérangeant.
D'accord.
Et après, c'est du cliquer pointer, donc c'est rien de nouveau. On utilise des objets sur d'autres pour avancer. On se balade dans les zones pour parler aux personnages. Après, on retrouve aussi ce syndrome propre au cliquer pointer qui est d'utiliser tous les objets avec sur tout et n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche. Hein, forcément, on se rappelle de Monkey Island, je sais pas si vous avez joué. Utiliser le singe comme manivelle, voilà. C'est pas aussi barré, mais bon. Mais au final, le jeu est quand même pas très dur. Hein. C'est limite trop simple. Parce qu'il y a aussi... C'est très dirigiste, en fait. On a l'impression qu'on nous prend par la main. On peut dire, ouais, prends des indices si t'arrives pas. Et puis c'est presque trop simple. Après, pour ce qui est des graphismes, c'est très cartoon. L'animation des persos est quand même assez rigide. C'est joli, mais sans plus, quoi. J'étais un petit peu déçu, en fait. Autant c'est sympa de retrouver l'univers, mais... J'ai l'impression que ça a été bâclé certaines fois. Quoi. J'étais habitué à mieux, en fait, de la part de Telltale. Bon, je bâche le jeu, désolé, mais...
Il faut t'entendre, des fois, il mérite.
Ouais, si je devais donner une note sur 10 flux capacitors, j'ai appelé ça comme ça, j'aime bien les point and click, j'aime beaucoup Back to the Future, donc je donnerais quand même un bon 7. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Mais après, si... vous
n'aimez
pas trop...
T'as pas passé un moment désagréable non plus.
Non, parce que au final, au prix où je l'ai payé, j'ai payé 10€ avec plein d'autres jeux, donc ça a été vite rentabilisé, quoi.
Oui.
J'ai quand même, je suis arrivé à l'épisode 4, donc j'ai quand même hâte de faire la suite, tu vois, histoire de voir comment ça finit.
Ça, du coup, mais un jeu comme ça, j'imagine qu'à l'épisode, je crois que c'est normalement c'est 5 ou 6, je sais plus. Imagine si tu avais payé ce prix-là, est-ce que, à ton avis, tu en aurais eu pour ton argent?
Si j'avais payé 5€ l'épisode,
oui.
Je pense que j'aurais été un petit peu déçu, ouais.
Ouais, voilà. Ouais. Il faut le dire, ça aussi.
Oui, okay, je pense que j'aurais été un petit peu déçu. Alors que tu vois, si j'ai payé donc 25€ pour les The Walking Dead, et là j'en ai vraiment pris plein la gueule, quoi, parce que c'est vraiment un super jeu, quoi. J'aurais même pu donner 40€ pour The Walking Dead tellement j'ai adoré, tu vois. Tu vois, il y a une différence de palier comme ça.
Des fois il y en a qui méritent, des fois pas.
Ouais. Ouais. Mais là, si vous aimez pas trop les point and click et Back to the Future, je pense qu'un bon 5 sur 10, ça suffit, quoi. Bon, au final, c'est quand même sympa, hein, je vous incite à y jouer, mais parce que bon, ça n'a pas été créé n'importe comment, ça a été quand même créé conjointement avec les scénaristes du film, donc ça reste quand même sympa à jouer, mais après, je sais pas s'il y a un retour vers le futur 4 qui s'annonce, je sais pas si ça va être pris en compte dans la continuité de l'histoire, mais bon.
Bah, tu penses qu'il y aurait une suite avec Michael J. Fox qui est malade?
Ah, je sais pas, hein, j'aimerais peut-être... beaucoup au final, mais...
Moi, je verrais bien Fils de Marty.
Ouais.
Voilà, tout le monde aimerait bien le revoir, mais malheureusement, je crois pas que...
Ah, mais il fait encore des trucs, Michael J. Fox, il va avoir son propre talk show.
Il avait passé dans une série.
Il joue dans The Good Wife, ouais.
Mmh. Ouais, oui.
Oui, voilà, The Good Wife.
D'ailleurs, vous connaissez Spin City?
Oui, il y a joué dedans.
Ouais, je vous conseille un épisode dantesque de Spin City où on voit la rencontre entre donc, le personnage de Michael J. Fox dans la série et en guest Christopher Lloyd qui arrive voir son petit protégé, quoi.
Magnifique.
Et c'est un moment magnifique, quoi. Ils font plein de références. Notre esprit est tourné vers le futur, donc ça a plein de références ouvertes.
Je suis un peu nerveux, c'est tout. Vous savez que Owen, c'est mon mentor, il m'a appris tout ce que je sais sur la politique, à faire campagne, à savoir comment manipuler la presse, et plus important, à savoir motiver les gens. Alors quand il arrivera, je veux que vous fassiez tous des trucs avec vos mains.
Michael Flaherty.
Owen Kingston. Oh, vous l'avez pas changé, c'est pas croyable. C'est comme si on remontait un peu le temps.
Notre passé est un prologue, Michael. Des hommes comme nous doivent continuellement regarder vers le futur.
Mais de quoi est-ce que vous parlez ?
Aucune idée.
Je recommande également, cet épisode est fabuleux.
Ah oui, fabuleux. Je mettrai la vidéo dans le blog, de toute façon. Bon, au final, ça reste super sympa à jouer, hein, surtout pour le prix que j'ai payé, 10€ avec un package de jeux, donc 10€ pour 7-8 jeux, ça passe. Hein. Ça fait passer une bonne dizaine, quinzaine d'heures, on retrouve bien l'esprit du film, donc ouais. Allez-y quand même, hein, franchement. Si vous arrivez à le trouver à un prix honnête, je pense que 15€ pour tout ça, c'est judicieux de mettre 15€. 25€, je trouve que c'est un peu beaucoup.
D'accord, parce que tu peux l'acheter à l'épisode.
Normalement, ça s'achète à l'épisode à la base.
Alors, oui, d'accord. Mais pas dans
je
le bundle.
Je connais pas ce principe. Oui, non, pas dans le bundle, oui.
Et est-ce qu'il y a une version physique qui est prévue un jour ?
Ça m'étonnerait. Je ne pense pas que c'est... Je pense que
ça
c'est que des
maths. Ça me plairait de mettre sur mon étagère Retour vers le futur.
Ah oui. C'est très joli. De mémoire, je pense pas qu'il y ait de version des maths. Voilà, je vous conseille d'y jouer quand même. Si vous le trouvez, jouez-y. Hein. Voilà. Vous avez pas de questions ?
Bah écoute, non. On connaît, je pense, l'univers tous.
Internet ouais, et conseil. Voilà. Après, peut-être qu'il y a dans ton bundle, il y a peut-être d'autres jeux qui valent le coup également, quitte à l'acheter, il y a peut-être d'autres que t'as repéré ou tu sais pas encore.
Ouais, juste après, j'aime faire Sam & Max.
Ah,
bah oui. Parce que Sam & Max, ça mériterait aussi d'en parler, parce que c'est tellement génial. Il y a aussi Puzzle Agent, bah, j'en ai parlé la dernière fois, c'est un petit jeu de puzzle qui est très très bien. Il y a The Walking Dead aussi, mais bon, j'y ai joué. Il y a plein de jeux comme ça, c'est surtout du point and click de toute façon. Comme d'accord. J'adore ça, au final, ça passe.
Quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mais je respecte. Je tolère.
Le point
que les gens aiment cliquer comme des fadas.
Voilà, qui aiment cliquer. J'ai jamais réussi à aimer ce genre. Ça m'a jamais.
Ah ouais. Donc t'aimes pas les Monkey Island ou...
Et non, j'ai. Quoique Monkey Island, j'ai jamais essayé à Monkey Island.
Mais, ah, essaye.
Il faut essayer. Rien que pour l'ambiance, il faut.
Ouais. C'est génial.
C'est complètement marré.
Je propose de passer à la suite. Et ça va être Monsieur Stark qui va nous parler de The Defenders.
Donc les Defenders, mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est pour commencer, c'est un vieux bouquin. Comment dire ? Les monsters Marvel. Je sais pas si vous voyez le genre.
Tu parles à quelqu'un qui connaît rien en comics.
Alors c'est des gros tomes.
Et moi pas grand-chose.
D'accord.
Moi un tout petit peu.
Alors c'est des gros tomes bien épais, donc édités par Panini Comics qui est un éditeur pour être connu pour soit faire juste la retranscription des épisodes américains mais des années après, soit éventuellement faire de très mauvaises reliures ou de très mauvaises adaptations. mais là pour une fois, ben là, c'était juste une transcription américaine, donc du coup là ça passe bien. Et en fait les Defenders c'est une équipe assez atypique, qui est un peu moins connue que les Avengers ou autres X-Men, etc. Et là que j'apprécie beaucoup parce que... Il y a un principe assez fort, c'est à savoir que les héros, les cadres de l'équipe ne se supportent pas.
Ah.
Et ça qui fait tout le sel de l'histoire. Parce qu'après, bon, l'histoire est pas parfaite, mais bon, là, ce tome-ci, donc en fait, revient sur. C'est dessiné. J'avais marqué leur nom quelque part à ces deux-là. Voilà, c'est dessiné par Klaus Johnson et écrit par Eric Larsen. Voilà.
Inconnu pour moi.
Et là, en termes de dessin, c'est quand même assez anecdotique, mais j'y reviendrai après. Disons que là, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez suivre L4. L4, ça commence sur L4, qui est un personnage secondaire en fait de l'équipe, qui est imaginez Catwoman avec 2-3 pouvoirs démoniaques, manière pour faire genre.
D'accord.
Genre elle est forte, tu vois. Et avec une combinaison jaune absolument horrible. Et en fait, qui, comme par hasard, va ramasser un clodo. Voilà, parce qu'elle avait envie de faire une bonne action. Qui va ramasser un clodo, l'amener au restaurant. Et manque de bol, ce clodo, c'est le meilleur ennemi des Defenders. Et sans faire exprès, elle lui aura redonné forme. Et lui, derrière ça, il aura réussi à emprisonner Gaia et à tirer sa puissance pour essayer de déclencher la fin du monde.
Forcément.
Voilà, et donc du coup, et comme il a réussi à entamer sa fin du monde, du coup, t'as des monstres qui popent un peu partout, donc il y a les Vengeurs qui se battent, les 4 Fantastiques, Spider-Man, tout le monde est pris, ça se voit, et donc du coup, pour aider L4 qui a réussi à s'échapper, elle décide d'appeler son ancien équipier qui est Kyle Richmond, qu'on connaît sous le nom de Nighthawk.
Ouais,
au cours de lui. En fait, qui est juste un mec avec un réacteur et des ailes pour faire cils. Voilà, imaginez Tony Stark, sauf qu'au lieu d'avoir une armure, il a un réacteur.
D'accord.
Voilà. Ouais. Après, c'est le milliardaire.
Donne-moi envie déjà.
Assez. Bah, disons que dans l'univers Marvel, t'as énormément de stéréotypes. Et le milliardaire est quelque chose qui revient beaucoup. Notamment, bon, après, t'as des trucs un peu plus complexes comme Angel, qui est lui aussi fils de milliardaire. Mais bon, en même temps, les ailes dans le dos, ça s'invente pas. Et donc, du coup, là, on va suivre. Donc, enfin, comme c'est le bazar et que plus personne n'est disponible, Nighthawk va décider de faire appel au Defender, de réunir sa vieille équipe, donc qui est composée notamment du Docteur Strange, de Namor, donc le prince de l'Atlantide, que vous devez connaître sûrement, bah, j'espère, et Hulk.
Non, désolé. Alors,
non.
Oui. Namor. Alors, il est connu pour être un des tout premiers mutants, et en fait, c'est tout simplement le roi du monde aquatique de l'Atlantide. Voilà. Où les gens sont bleus, il y a des poissons et des bulles, tout ça. Que dire d'autre? Donc du coup, oui, donc les trois vont être réunis suite à un imbroglio mythique déclenché par Nighthawk. Et tout simplement, ils vont encore une fois battre leur ennemi, il n'y a rien de... Bon là je suis en train de vous spoiler juste le début, hein, donc rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Et en fait, suite à ça, Yondroth, donc leur ennemi de toujours, se rend compte que de quelque chose d'évident. C'est qu'en fait, cette équipe-là ne se supporte pas. Ils peuvent pas se blairer. Dès qu'ils apparaissent sur place, Namor et Hulk, ils peuvent pas faire autre chose que se foutre sur la gueule. Et les deux autres cadres de l'équipe, donc le Doctor Strange et le Silver Surfer, qui on va dire est un peu le nouveau de l'équipe, entre guillemets, enfin si j'ai bien compris le récit, lui va être... enfin ils vont se regarder en chien de faïence avec Strange et se dire mais ils sont cons ceux-là ou quoi.
C'est quoi cette équipe de défenseurs?
C'est ça, non mais c'est exactement ça. Et donc Yondroth, avant de mourir, se rendant compte de ça, il utilise le peu de son dernier souffle de vie et la puissance de Gaïa qu'il a encore en sa possession. Donc Gaïa, la mère terre, la nature, tout ça, qui est juste matérialisée par une géante enchaînée, ce que j'ai trouvé pitoyable. Mais bon, ça c'est encore un autre détail. Et donc du coup. Bah, il va maudire tous ces héros qui vont être obligés, en fait, à chaque fois que la Terre sera en danger, en fait, eux-mêmes vont être invoqués sur place, ils vont tous les quatre apparaître, ces quatre-là, et en fait, de là, ils vont devoir déjouer la menace qui pèse sur le monde, et ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de faire équipe ensemble. C'est ça la malédiction. Donc voilà, là, on va dire, je vous ai résumé le plus piquant. Ça qui est très intéressant, c'est que là, on voit par exemple, le Hulk taquin. Vous voyez dans Avengers quand il met le petit coin dans Thor. Voilà. Ben là pour moi j'ai retrouvé le Hulk de ce bouquin. Voilà, pour moi c'était exactement ça, cette séquence. En plus, faut savoir que dans l'équipe il y a aussi Valkyrie qui est une Asgardienne, donc grosso modo imaginez Thor en gonzesse. Voilà, donc du coup ça m'a pas du tout choqué que ça soit Thor à la place. Et donc du coup ils vont affronter donc tous les problèmes que toute personne, aucune autre équipe gère à leur place.
J'ai une question moi qui me vient à l'esprit quand tu dis ça.
Vas-y, justement.
Tu dis que les Avengers ont été pris et sont occupés, donc il n'y a plus personne de disponible et il faut appeler aux Defenders. Mais dans les mômes que tu as cités, il y a quand même deux. Il y a Hulk et Thor qui viennent des Avengers.
Alors,
donc,
qu'est-ce qu'il faut Thor, Thor, c'est Valkyrie en fait, c'est pas Thor. Hein. C'est Valkyrie qui est un genre de Thor en. Mais c'est une gonzesse, elle est Valkyrie Asgard. Hein, comme...
J'avais mal entendu alors. Et Hulk.
Et en fait, Hulk, faut savoir que Hulk, il a eu plusieurs. Il a fait partie des Vengeurs à un moment, notamment à la première époque, mais les Vengeurs. Ont dû vite se passer lui, cause à son instabilité. Enfin, au niveau de l'histoire, les Vengeurs, il y a énormément d'équipes. Et Hulk, il a fait partie que d'une seule.
Ah oui, donc là, on est dans une continuité où Hulk n'est plus parmi les Vengeurs.
Simplement. Ou même Strange, qui garde notre monde des puissances mystiques, et ils sont dans les autres dimensions. Et en fait, Strange, à force d'aller traîner dans les dimensions sous forme astrale, il finit par perdre un peu, par devenir un être solitaire et un peu à préférer la solitude et à être vite agacé par les gens. Ça fait un personnage assez... assez peu sympathique au final, contrairement alors que le Docteur Strange quelqu'un d'assez important dans l'univers Marvel et donc voilà. Après on va revenir graphiquement, je suis quand même pas super fan. Après moi j'aime beaucoup les dessins modernes, là faut dire que la BD elle date des années 70. Bon, j'ai pas la date précise.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, c'est vraiment du old school. Au niveau du scénario, bon après c'est du scénario assez efficace qu'on pouvait trouver à l'époque, mais moi je trouve pas super fini en fait, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, ça c'est normal. Par contre, le scénario, les histoires sont complètement ubuesques. Ils vont affronter des méchants aussi charismatiques que la femme vipère, que les headmen, qui sont composés d'une femme avec une tête de boule, d'un homme qui a une tête, juste une tête sur des pattes d'araignée mécanique, ou même d'un homme gorille. En fait, c'est un gorille avec une tête de mec qui fume un cigare. Voilà. Ah oui, non, mais faut savoir.
C'est les années 70.
À cette époque-là, le méchant de merde, bien pourri, est assez répandu. Même
la tête sur une araignée mécanique, ça fait beaucoup penser aux méchants de Wild Wild West. Hein. Désolé.
Et...
de dire.
Ah oui, c'est non, pas mais fou. Ouais, en plus, il y a un peu de ça.
Il était pourri ce film d'ailleurs.
Moi, je l'ai trouvé divertissant. Mais non, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Soyons clairs. Non, divertissant.
Mais il fait passer le temps.
Exactement, c'est ça que je veux dire ouais. Par divertissant. C'est voilà, tu le regardes, tu poses ton cerveau, comme tu le reprends à la sortie, comme avec beaucoup de films. Et donc voilà, et donc je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter. Petit truc sur Namor qui à chaque fois essaye de défendre son royaume en attaque et pof, ben il est téléporté ailleurs dans le monde parce que la Terre est attaquée ailleurs. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont au final, c'est les relations entre personnages qui font que c'est marrant et qui font que vous allez tenir malgré ces scénarios complètement farfelus tout au long de ces... Ah zut, de regarder le nombre de pages. Ah ouais, ben Panini c'est tellement pourri que par exemple ils mettent pas le numéro des pages en bas. Voilà.
Et c'est un one shot ou il y en a plus?
En fait, il y en a plusieurs. Là, celui que j'ai devant moi, c'est un recueil en fait, comme on en a beaucoup en Europe.
Ouais.
Un recueil de combien d'épisodes? D'une dizaine d'épisodes. Voilà, de 10 épisodes qui sont parus voilà entre les années. Ah, Belzepa. J'ai pas les dates précises. Je suis vraiment désolé. Pas précis. Ah, pour dire à quel point les ouvrages Panini sont détaillés à l'intérieur. Voilà. Y a-t-il des questions?
L'édition est pas trop merdique parce que Panini, dans le style comics, c'était pas très.
Parce que Panini, ils avaient le mérite de. Au moins de sortir des bouquins là où il y avait très peu de choix en France.
Ouais, maintenant, on est quand même content de voir Urban Comics qui a repris toute la partie DC. C'est déjà. Et Marvel.
Que je sache. Pour l'instant, ils ont DC. Marvel, c'est encore Panini. Enfin, du moins d'après les informations que j'ai. Et je pense que tôt ou tard, vu comment Urban fait les choses intelligemment, moi, je m'inquiète pas pour leur avenir. Là, ils font des belles éditions d'ici.
Oh oui, c'est très tentant maintenant Urban. C'est
complètement. Là, je suis en train de me refaire tous les vieux classiques de chez Batman que je m'étais jamais acheté à l'époque de Panini parce que ça coûtait 70 euros le bouquin.
La cour du hibou. La cour du hibou, excellent.
Exactement. Ah, j'ai les deux tomes, je suis en train de les regarder là sur mon étagère.
J'avais acheté le deuxième parce que.
Je l'ai.
Ah.
Je m'ai laissé un peu dubitatif. Disons qu'il y a une révélation, je sais pas si c'est du génie ou de la flemme.
Ou de la
poudre. Ouais, voilà, je sais pas quoi en penser, mais sinon quand même très bien. Bonne conclusion à la cour des hibou qui, lui, par contre, était magistrale.
Mais oh oui.
Moi j'adore Capullo, donc je suis pas l'auteur de la cour des hiboux, donc je suis pas neutre, je suis un peu partial.
Ouais.
et voilà, donc pour conclure, si jamais vous trouvez, parce que là je pense que vous le trouverez qu'en brocante,
ouais.
À moins qu'une nouvelle édition arrive. Ah oui, c'est pour ça que j'ai précisé que mon objet culturel était daté. Prendre parce qu'au moins pour les relations avec Hulk et le reste de la troupe, c'est rigolo.
Il y a une chance que ça se retrouve republié, un de ces quatre? Parce que, est-ce que ça a eu du succès?
Alors, ça a eu un succès. Alors, le problème, c'est que chez Marvel, t'as beaucoup d'écuries, et t'as beaucoup de grosses écuries qui accaparent la lumière. Donc, t'as notamment les Vengeurs, je parlais des X-Men. Il faut savoir qu'il y a aussi une masse d'équipes, si on parle d'Alpha Flight, de... Enfin, vous en avez dans le monde entier, des équipes à plus savoir qu'en foutre, à tirer l'arigot. Et donc du coup, je pense que parmi la masse des choses, je pense que on va surtout retrouver. J'ai vu que ça servait de base, enfin, pas de base, mais je retrouve une essence un peu du Hulk, comme je vous disais, des Vengeurs. Mais déjà rien que ça, je suis content de retrouver un peu de ça. Mais après, je pense peut-être que la Fnac peut faire quelque chose ou tous les vendeurs en ligne.
Ouais, succès relatif quoi.
Par rapport aux grosses écuries de chez Marvel, c'est pas comparable.
Et c'était en VO ou en VF du coup?
Moi je l'ai en VF. Ah oui, d'ailleurs, tu me fais penser. VF absolument pitoyable. Au niveau de la traduction des textes. Donc il y a forcément le écrasé Hulk, bon, qui est notamment connu comme le cri de guerre de Hulk, le Hulk Smash! De couillu, quelque chose de. Et bon, enfin bon, il y a plein de choses. au niveau de la VO, je trouve que, en fait, de la VF, de l'adaptation, il y a des termes un peu abscons. Mais là, après, je me dis, c'est peut-être les années 70.
Très bien, très bien. Je pense qu'on peut passer à la suite. Hirslo, tu te sens prêt?
Oui, oui.
Et ben, parfait, jingle. Jingle magnifique.
Donc moi, non, je vais pas vous parler de podcast, je vais vous parler d'une octologie. L'octologie de la Tour Sombre. Je sais pas si... Ah, bon, toi, je sais péremptoire que tu connais.
Que de nom.
Que de nom?
Ouais, que de nom.
D'accord.
Ouais,
donc je vais essayer de te donner envie. Nicolas, Stark, Anthony.
Alors, faut savoir que moi, je ne lis jamais de bouquins. Voilà, je supporte pas.
Surtout... D'accord, oui, surtout quand ça fait 900 pages pour certains.
Ah, moi, je lis volontiers, donc si tu me donnes envie, je m'y plongerai. Mais
bah écoute, je vais essayer. Alors, La Tour Sombre, c'est en quelque sorte le chef-d'œuvre de Stephen King, le célèbre romancier américain de l'horreur et du fantastique. Et il a débuté la rédaction du premier tome de La Tour Sombre lorsqu'il était encore étudiant. Donc ça commence quand même à dater. Et les volumes se sont étoffés et succédés jusqu'en 2004, où le volume 7, le dernier, a été publié. Alors, le volume 7, le dernier, parce que l'an dernier, 2012, apparaît le volume 8, qui s'intercale, en fait, entre le volume 4 et le volume 5. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. La Tour Sombre, je sais pas si certains s'intéressent à la poésie américaine, enfin, du moins anglo-saxonne. Non.
Désolé.
Donc, Stephen King, en fait, s'est inspiré d'un poème de Robert Browning qui s'appelait Child Roland, le chevalier Roland, et qu'il a étudié à l'université un petit peu avant de se lancer finalement dans la rédaction de La Tour Sombre. Et je vais vous lire les premiers vers qui sont de la traduction française inclus dans le volume 7 de La Tour Sombre. Donc, le début. Je pensais, il a menti en chaque mot, l'hideux infirme de son œil qu'il disait voilé par le songe, de biais contempler l'effet de ses mensonges. Sur moi et sa bouche incapable de masquer les chaos, de sa liesse qui secouait et tordait son bras beau, devant l'agonie de la victime que la mort ronge. Vous voyez un petit peu l'atmosphère déjà?
C'est gay.
C'est beau.
Ouais, c'est un peu glauque. Et je continue, là, je suis allé beaucoup plus loin dans le poème. Et au centre, quoi d'autre que la tour unique, tourelle ronde et trapue, aussi aveugle que le cœur de l'idiot ahuri, bâtie de pierres brunes, et sans jumelles dressées à côté, seule surgit. Seul au monde de son espèce. Ainsi, l'elfe moqueur de la tempête fatidique désigne au capitaine l'obstacle invisible, l'écueil dramatique sur lequel il viendra déchirer son navire au premier soubresaut ressenti.
C'est gay.
Ouais, et on termine. Tous debout, là, alignés le long des collines réunies, pour me voir avant le grand départ, cadre vivant et plein d'espoir, d'un ultime tableau. Sur une feuille en flamme dans le soir, je les vis, tous je les reconnus, et c'est alors qu'en un geste infini, intrépide, je portais à mes lèvres mon corps béni, et sonné, le chevalier Roland s'en vint à la tour noire. Donc, ça c'est le poème de Browning qui date de 1855, si je dis pas de bêtises. Et donc Stephen King s'inspirait de ça pour l'univers. Et en fait, on retrouve Roland, qui est le pistolero, qui est le héros principal, enfin le héros, et donc... Tout l'univers qui est décrit dans le poème se retrouve par endroits éparpillé autour des 7 volumes. Donc c'est vrai que c'est un univers qui est quand même assez étrange, lugubre, qui paraît quand même médiéval et héroïque en même temps. Et c'est... Alors je sais pas si vous avez lu du Stephen King, Nicolas sûrement.
Oui, mais j'avoue que c'est pas ma...
Pas trop.
Pas trop ma cam.
T'avais lu... Si tu te souviens, t'as lu quoi?
Ouf, qu'est-ce que j'ai lu de lui? J'ai lu ça. J'ai lu Shining parce que bon, quand
classique.
Même, film. J'ai essayé le dernier avec JFK là.
Ouais.
Ah oui non.
Qui m'a pas emballé plus que ça. J'ai pas continué.
D'accord.
Et Misery.
Alors... D'accord, alors ce que tu me cites, j'ai pas lu le dernier là sur JFK, mais les autres, on est plus dans l'horreur, l'épouvante.
Oui, mais dans c'est celui-là ça pas qui du tout. Me convient peut-être pas donc.
Voilà, là on est plus sur de la fantasy. Et c'est, on est plus du côté, je sais pas si vous connaissez peut-être Territoire, qu'il a écrit avec Peter Straub. Donc qui est plus, on est vraiment plus sur quelque chose de un peu plus léger, un peu moins glauque, malgré l'univers. Et donc Péremptoire, je t'ai fait passer aussi un fichier image. Donc vous le voyez pas par le podcast, hein, mais peut-être que vous le verrez sur le blog, voilà, moi je mettrai aussi sur mon blog perso, c'est une peinture qui illustre le poème de Browning de La Tour Sombre. Alors maintenant, pour en revenir à l'octologie, Stephen King a posé les premiers mots du livre et qui sont « L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait ». Et c'est ainsi qu'on a Roland qui apparaît, qui est le pistolero, qui vient de s'incarner pour durer jusqu'à la fin du dernier épisode. Alors, La Tour Sombre, c'est l'épopée de ce fameux Roland, Roland de Gilead, Roland Deschain. C'est le dernier pistolero d'un monde qui part à volo. C'est un monde qui dégénère. Il est le dernier représentant d'un ordre qui fut respecté et admiré, les pistoleros, qui étaient des fidèles et droits représentants de la justice. Et au cours de ces 7 volumes, enfin même du 8e, Roland va poursuivre sa voie fidèle à ses principes. C'est un homme qui a une morale assez personnelle, très fiché dans ses bottes, un peu collémenté pour certaines choses, très intransigeant. Et il aura affaire à certains héros qui ne sont pas tout à fait blancs. Donc les personnages sont assez intéressants au niveau de leur psychologie. Il va faire de multiples rencontres. Parfois plusieurs rencontres du même personnage. La magie est aussi présente dans le livre. Et il va, au fil des épisodes, revivre des péripéties anciennes, ou plus qui se passeront dans le futur, ou de mondes auxquels il n'appartient pas. Voilà, il va croiser les chemins du rayon, et le rayon croise plusieurs mondes, et il va pouvoir ouvrir certaines portes qui vont aller sur des houes et des camps assez étonnants. Enfin, pour ceux qui le lisent, vous verrez, c'est intéressant. Voilà, et donc Roland va devoir créer des liens, enseigner, diriger et commander son quatette, son équipe, son groupe, et il aura des décisions graves et difficiles à prendre. Alors, pour l'histoire, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que sinon je vais spoiler, et... Donc c'est vraiment une épopée fantastique qui frôle réalité, qui frôle notre réalité, qui accroche la magie, qui fait appel au courage, à la folie, à la persévérance. En quelque sorte, c'est une quête, un voyage initiatique qui peut faire penser dans un certain sens à un Candide de Voltaire. Pas du tout dans le même univers, mais c'est un voyage initiatique que vit Roland. Et moi, la conclusion m'a un petit peu déçu au niveau du set. Je voulais pas m'attendre à ça. Voilà. Mais bon, j'ai acheté le dernier, le 8e, je l'ai reçu samedi midi, il est fini. Ça se lit très bien, c'est bien écrit, c'est pas trop glauque. C'est prenant sans être, comme peut être un livre d'épouvante, oppressant. C'est vraiment sympa. Et bon, les connaisseurs de Stephen King reconnaîtront certains personnages, comme Randall Flagg, par exemple.
Ah, oui.
Voilà, qui est un personnage un petit peu immuable dans l'univers de King. Et voilà, donc le tout est très bien écrit, très cohérent. Moi, je sais qu'à chaque nouveau volume, je me suis relu de l'intégrale.
Ah oui, voilà. Oui.
Alors, c'est vrai qu'on a un premier volume... Qui commence à quoi, qui doit faire dans les 200 pages. Et le volume 7, lui, fait 900 et quelques pages. Donc ça fait un beau petit pavé à lire. Donc si vous êtes intéressé, le premier volume, c'était Le Pistolero. Le deuxième s'appelle Les Trois Cartes. Le troisième, Terre Perdue. Le quatrième, Magie et Cristal. Le 4,5, La Clé des Vents. C'est celui qui est sorti l'année dernière. Ensuite, on passe au 5, Les Loups de la Calia. Le Chant de Susanna en 6. Et La Tour Sombre, qui est la conclusion en 7. Donc c'est vraiment un univers qui a été adapté en comics et en BD. Alors moi j'ai découvert ça quand j'ai préparé l'article pour ce soir. Alors je les connais pas du tout, ils sont sortis aux États-Unis et ils sont sortis aussi en France, traduits. Il y a le lien Wikipédia que je te ferai passer péremptoire. Voilà, où vous avez pas mal de références des comics et de la BD. A priori, la BD ne respecte pas, enfin les comics et la BD ne respectent pas scrupuleusement le scénario de l'octologie. Il y a des libertés qui ont été prises.
C'est rare à toute adaptation.
Et alors.
Ah.
Plus d'après ce que j'ai lu, plus ça ne serait plus des libertés que vraiment des adaptations.
D'accord.
Enfin, ils ont poursuivi dans certains sens en se permettant de faire des petites modifs du reste. Voilà. Bon, après, je les ai pas lus, donc j'ai du mal à en parler.
Alors, tu m'as donné juste aussi deux fichiers sons.
Ouais, alors moi, ce sont des fichiers sons qui... Alors, tu peux en passer un.
Ouais.
N'importe lequel.
C'est ça. Pourquoi ça t'évoque le Nirvana ?
Alors moi, Nirvana, c'est le Unplugged. Et ça fait partie des morceaux qui pour moi incarnent cet univers. Alors Roland, c'est un pistolero, donc armé de pistolets. Vous pouvez imaginer un monde un petit peu façon western.
Alors moi j'imagine avec un poncho. Il porte un poncho.
Et ça lui arrive. Mais pas tout le temps.
D'accord.
Voilà. Alors, les illustrations, j'en ai pas parlé. Alors, il existe en poche, édité par J'ai lu, et il existe aussi en gros recueil, grand format, aussi édité par J'ai lu, et qui contiennent des illustrations qui sont magnifiques. Dans leur style, mais je pense que vous apprécierez, vu ce dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment sympa pour continuer à nourrir l'univers de la Tour Sombre. Au niveau musique aussi, bon, c'est vrai, vous pouvez peut-être, pour les amateurs, penser à la country. Bon, moi je suis pas country, donc ça me tente pas, mais c'est vrai, ce grain-là de guitare et ce Nirvana, moi ça me plaisait vachement. Et pour terminer, au niveau de ce qui existe en plus, il y a un film qui est en projet. Alors, il est en projet depuis 2008. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'infos, il y a J.J. Abrams qui devait être de la partie.
Encore lui.
Il s'est retiré, il a sûrement dû préférer faire la guerre des étoiles hein, pour Walt Disney. Ouais, ouais, ouais.
Un peu trop,
mais là, il n'y est plus, hein, en tout cas. Et là, il semblerait que les financements étaient en recherche pour pouvoir lancer le film. Qu'il y aurait un premier film qui serait lancé, puis en fonction du succès, un deuxième ou pas. Bon, moi je suis pas sûr que je me retrouverai vachement dans un film, enfin vu l'univers que c'est, déjà j'ai eu du mal avec Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas apprécié les films. Ben, j'avais lu les livres avant, je m'étais fait mon univers et ça correspondait pas à l'adaptation. Donc moi ça m'a, voilà, ça m'a choqué, enfin choqué, c'est un grand mot, mais ça venait heurter ce que je m'étais imaginé. Donc c'est pour ça que j'ai peur de tomber sur quelque chose qui corresponde pas non plus à ce dont je m'étais, enfin, à ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Et sinon, il y a aussi, pour terminer, le site web français www.latoursombre.fr, qui est un site très complet, rempli d'informations, qui est à consulter si vous voulez vous faire une idée de l'univers de la Tour Sombre.
Je te mets celle-là aussi, hein.
Voilà. Bah, c'est les deux qui sont à la suite et qui, moi, me parlent le plus, vraiment. Un petit Sergio Leone aussi pourrait être pas mal. Ouais. Voilà.
C'est très western, finalement.
Bah, c'est un pistolero.
Oui.
Qui, il commence, il traverse le désert. Donc, tu vois un pistolero dans un désert...
C'est Lucky Luke.
Ouais, mais peut-être sans le...
non.
Sans le jean et la chemise jaune.
Le jean, pourquoi pas, la chemise jaune, j'en doute.
Ça reste un Poor Lonesome Cowboy.
Ben, non, pas non. Toujours.
Ah.
Ça dépendra des où et des quand. Il y a vraiment des croisées d'univers, avec des interpénétrations d'univers, qui donnent vraiment un souffle sympa au livre. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop embrouillé pour vous donner envie.
Peut-être essayer de lire le premier si un petit
le premier se lit bien. Hein.
Bah surtout que 200 pages, donc ça devrait...
même pas, quoi. En poche, je crois qu'un peu moins, il doit être à 180 même.
J'irai voir demain.
Voilà.
Ouais, je crois que je vais tenter le coup aussi, juste pour au moins voir le premier.
Parfait. Je pense
voilà.
Que
donc on retrouve pas, c'est vrai, c'est pas le côté horreur, épouvante.
Y a pas de clowns qui font peur et tout ça.
Non, 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 même pas les clowns. Depuis que j'ai lu ça trop jeune et...
Ah, moi, je l'ai vu, ça m'a traumatisé, effectivement.
Mais je l'avais lu d'abord.
Ça doit pas être pareil. Et je me disais simplement par rapport à la Tour Sombre, c'est surtout basé sur l'univers qui est bien sombre, si je comprends bien.
Alors, globalement, c'est un monde qui tombe en décrépitude. C'est un monde en pleine mutation négative. Et donc ce monde, le pistolero justement veut essayer de le sauver, quitte à essayer même de revenir en arrière, d'où son chemin vers la tour. Donc c'est vraiment le parcours initiatique. Enfin, quand t'as lu le 7, tu peux penser que c'est un parcours initiatique. Mais voilà, il faut lire les 7 pour pouvoir faire tout ce chemin. Mais ça se lit bien, hein, c'est pas prise de tête à la lecture.
Ok, pas comme Le Seigneur des Anneaux. Non, je disais ça parce que c'est une de mes références, ça fait partie des bouquins que j'ai essayé de lire et que ça m'a...
Non, non, mais déjà, c'est beaucoup plus léger au niveau de la traduction, c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça reste... C'est précis, mais ça reste simple, quoi. Il n'y a pas tout un vocabulaire limite qui a été créé pour l'occasion.
Très bien. Je pense que j'essaierai de l'acheter. Il faut...
Au moins le premier, oui.
Ouais, au moins le premier. Eh bien, parfait. Merci.
Merci. Ben, merci à vous.
On va passer à Nicolas. Je vous ferai une copie sur CD, je vous l'enverrai, le jingle.
Merci. Alors,
avec plaisir, je suis fan.
Alors, tu vas nous parler de Doctor Who, donc.
Oui, tout à fait. Enfin, plus précisément...
Pardon, désolé, je sais que cette blague est facile, mais je sors.
Alors, je disais plus précisément de la saison 7, en fait. Je vais pas m'étendre sur toute l'histoire de Doctor Who, je vais pas revenir sur tout en détail. Avant de commencer, est-ce que parmi vous, certains connaissent la série, la regardent, ont suivi
Oui, jusqu'à la saison 7, épisode 2.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Moi, je connais de réputation, mais je suis juste tombé sur des épisodes au pif sur France 4 quelques fois, sinon je n'ai jamais regardé. Bon.
Moi, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'en ai regardé 3 épisodes jusqu'à présent. Toutes saisons confondues.
Ah oui. Faut tomber sur les bons épisodes au début quand même pour accrocher.
Oh, pas forcément. Si tu tombes pick-block, oui, mais si tu prends la série de 2005 dès le départ, moi je trouve que dès le départ ça marque bien et ça.
C'est un peu cheap quand même au début. Hein.
Ah, c'est cheap, mais il faut accepter ce côté-là, série anglaise un peu
ouais,
cheap.
Ouais, parce que des fois ça faisait bizarre, mais bon, je trouvais que ça passait bien comme ça.
Des mannequins pour vêtements en guise d'ennemis, c'est assez limite.
Ah, il y a plusieurs petites choses, oui. Les Daleks sont pas les monstres les mieux faits de ce qu'on peut trouver en série ou en cinéma.
Oh, mais c'est pour ça qu'ils sont devenus cultes, enfin, je pense. Enfin, comme le TARDIS.
Voilà. Exactement. Avec pas mal de répliques cultes. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du Docteur Who. Hein. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir les saisons précédentes, aller lire sur Internet, vous trouverez sûrement plein de choses.
Oh, oui.
Il y a énormément de fans, c'est une énorme série. Et justement, j'ai pas envie de trop m'attarder sur l'histoire parce que je vais me faire lâcher, à mon avis, par les fans. Parce que c'est quand même quelque chose... Il y a des gens très très précis sur le domaine. Hein. C'est
oui.
Assez particulier. Donc, juste pour résumer très grosso modo, ceux qui ne connaissent pas du tout, le Docteur, c'est un extraterrestre, un Time Lord exactement, qui voyage à bord du TARDIS. Donc le TARDIS, ça a l'apparence d'une cabine de police anglaise... Vous savez, l'espèce de grosse cabine téléphonique marquée police.
Oui, cabine de...
Voilà, c'est ça. Qui est en fait son vaisseau, qui d'ailleurs est plus grand dedans que dehors. Ça, c'est un récurrent dans la série. Et donc, il voyage dans le temps et il est particulièrement attaché à la Terre et aux Terriens, en fait. Ça aussi, on découvre plus tard par la suite. On découvre quelques pistes, mais bon. Et donc, il arrive... En fait, il rencontre toujours des gens qui vont vivre ses aventures avec lui. Donc, il se retrouve toujours avec une compagne et ou une compagne et un compagnon qui vont l'accompagner partout et le suivre dans toutes ses aventures, visiter le temps et remettre les choses un peu à leur place. Donc voilà, le pitch de départ est pas... ça paraît une histoire assez banale, mais ça donne lieu à une série... moi, personnellement, que je trouve géniale, et je suis loin d'être le seul, et surtout une série d'une longévité assez, assez énorme. Parce que pour vous situer, ici en novembre, on fête les 50 ans de la série Doctor Who, avec un épisode spécial. Bon, il n'y a pas eu 50 ans non-stop, on va aller jusque-là quand même.
C'est très segmenté, il y a eu peut-être des dizaines d'années sans rien.
Et... Voilà, c'est ouais. Ça fait quand même déjà 50 ans et une pelletée d'épisodes. En fait, il y a eu une série initiale qui a commencé donc en 63, et ensuite qui s'est terminée après, je ne sais même plus combien de saisons, énormément, je n'ai plus le nombre en tête, je vais me faire lâcher, par des films. Et en 2005, ça a été repris et recommencé avec une nouvelle série, si on veut. Et vous pouvez prendre à partir de la saison de série 2005 sans être perdu, hein, ça ne pose aucun problème.
D'ailleurs, je crois que justement la série de 2005 reprend la timeline de celle des années 60.
Oui, c'est ça qui est fort, ils parviennent à garder la timeline, mais en permettant aux nouveaux arrivants, aux gens qui n'ont jamais vu la série, comme moi par exemple, j'avais jamais vu Doctor Who avant la série de 2005, d'accrocher, d'être dedans et de suivre l'histoire sans perdre une miette et sans... Il y a vraiment que des menus détails, des menus références qui sont faites de temps en temps, que j'ai découvert après sur Internet, mais qui ne posent aucun problème quand on regarde la série. Donc ça, c'est quand même pas mal fait. Alors ici, Moi, ce que j'avais surtout envie, c'était de revenir sur la saison 7 qui vient de se terminer. Et alors, étonnamment, après tout ce que je viens de dire quand même, c'est un petit peu un coup de gueule pour le coup.
Ah, pas si bonne que ça la saison 7 au final ?
Non, pour le coup, ah, non. Franchement, j'ai été pas agréablement surpris du tout. Autant depuis la première saison, je n'en démords pas, j'attends ma dose de Doctor Who à chaque fois qu'il en sort un. C'est une de mes séries un peu drogue. Autant ici sur la saison 7, j'ai trouvé plutôt plate, plutôt sans intérêt, beaucoup d'épisodes one shot et assez décevantes.
Mais les amateurs de séries adorent gueuler. Ils ont gueulé toute la saison 3 là, de Game of Thrones là, et puis au final ils sont pris le Red Winning dans la gueule comme tout le monde quoi. C'est pareil. Non.
Non, moi j'ai pas râlé pour la 3.
Pas forcément.
D'accord.
Bah, j'ai regardé Game of Thrones aussi, j'ai pas gueulé toute la saison 3. Donc,
moi j'ai plein de potes qui ont râlé justement, alors que moi je trouvais. Enfin, je me disais, vous verrez à la fin, vous verrez, vous serez comme des cons vous aussi.
Ah, mais ici, justement, raison. Moi c'est ça que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai tenu, je me suis dit, vous verrez à la fin, et moi je trouve que j'ai pas eu tort, l'épisode final reste un des seuls à sauver de cette. C'est simple, cette saison-ci, vous prenez le premier, vous prenez le troisième et vous prenez le final. Voilà. Sur 13 épisodes, ça fait pas grand chose à sauver.
Sur 10 épisodes, oh t'es un peu dur. Mais bon, bref, c'est pas le sujet.
Oui, voilà, c'est pas le sujet. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi là-dessus que je voulais revenir, il y a eu plusieurs choses, en fait. Les dates de diffusion de la série ont complètement été modifiées à cause, justement, des 50 ans du Docteur. Généralement, la série commence aux alentours de Pâques, et se termine en fait juste avant un épisode spécial, parce que chaque année à Noël, il y a un épisode spécial de Doctor Who qui amène la nouvelle compagne, le nouveau docteur. Ah oui, ça j'ai pas précisé d'ailleurs. Le principe pour que la série perdure comme ça, c'est que le docteur, en fait, il a un pouvoir, c'est que quand il est proche de mourir, il se régénère.
Twist scénaristique pour lancer.
Non, il se régénère. Attention.
Il se régénère, d'accord.
Et ça permet de changer de comédien tout au long. D'ailleurs, ici, c'est le docteur actuellement qui va effectivement partir normalement en spécial Noël de cette année. Et donc, ici, comme il y a eu les 50 ans et que ça avait lieu en novembre, mais ils ne pouvaient pas se permettre d'être en plein milieu de la saison pour faire un spécial à cet endroit-là. Donc, ils ont complètement chamboulé leurs habitudes de diffusion. De là à savoir si ça a joué sur la façon de tourner, si ça a dû précipiter un peu certaines choses qui ont fait qu'ils n'ont pas pu aboutir à une série aussi bien faite. Bon, je ne sais pas. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le docteur était accompagné de deux compagnons depuis deux saisons maintenant. Donc c'était Rory et Amy, que j'aimais assez d'ailleurs, un jeune couple. Et en fait, on savait d'ailleurs depuis le début de la saison que les compagnons allaient changer, parce que les compagnons changent régulièrement aussi. Il a l'air de perdre ses compagnons en chemin.
C'est assez. Oui, c'est ça. Alors, il perd son compagnon.
Soit il part dans une autre dimension, ils sont perdus à jamais, soit il meurt, soit il. Enfin, c'est.
Il va déprimer pendant un épisode et puis il va repartir.
Et puis il va repartir avec quelqu'un d'autre, voilà.
C'est ça.
Et alors, résultat, le problème, c'est que les trois premiers sont avec eux et on sait très bien qu'ils vont disparaître. Donc, on s'attend à un épisode où on va les voir partir, qui est censé être triste, mais on s'y attend tellement que résultat, ben. Oui, on est un peu tristouné parce qu'on s'y est accroché à ces personnages-là, mais après, on passe vite à autre chose. Donc, les trois premiers épisodes, c'est avec eux, c'est trois épisodes one-shot qui veulent rien dire parce qu'on peut pas les installer dans une continuité. Et puis après, il faut installer la nouvelle compagnon qui arrive. On la voit dans l'épisode 1, mais ça, c'est un petit détail. Mais qui arrive à l'épisode 4. Il faut le temps de l'installer et. Disons que voilà, elle n'a pas vraiment le temps de se mettre en place jusqu'à la fin de la saison. Quoi.
C'est bizarre en fait d'avoir changé en plein milieu de la saison de compagnon comme ça, c'est assez bizarre de leur part.
Oui, est-ce que c'est encore une fois lié à l'anniversaire, enfin, je ne sais pas, il y a des gens peut-être plus calés que moi qui le sauront, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu bizarre d'avoir fait comme ça, et surtout d'avoir gardé les deux autres juste comme ça pour dire deux, trois épisodes. Quoi. Ça permettait de rien faire, tout simplement au niveau scénaristique. Tu peux pas installer des personnages en trois épisodes, leur redonner une contenance. Enfin, ça m'a semblé un peu curieux. Donc voilà, si vous avez vraiment des épisodes à regarder, c'est le tout premier de la saison, parce que les premiers de saison sont généralement assez terribles. Et puis on voit la nouvelle compagnon qui s'appelle Clara, qui est jouée par Jenna Louise Coleman, un nom qui ne. qui ne parlera probablement pas à grand monde étant donné le le peu de choses dans sa filmographie. Elle est apparue dans Captain America notamment, voilà, comme ça vous savez. Et donc cet épisode-là, l'épisode, bah, si vous étiez accroché à ce personnage, si vous avez suivi les saisons d'avant, l'épisode où Rory et oh, j'ai toujours un trou sur son nom.
Amy.
C'est extraordinaire. Amy, merci, décidément. Rory et Amy disparaissent. Ça s'appelle Angels Take Manhattan, ouais, c'est ça, voilà. Qui est assez prenant. Et bah, le dernier, parce que le dernier, il y a un cliffhanger de fou. Une histoire. D'ailleurs, le dernier, pour vous situer, dans toute la série, un des grands secrets de la série, c'est le nom du docteur. Oui. D'où le titre, d'ailleurs, hein. Docteur Key, comme tu l'as si bien dit, Monsieur Stark. Donc c'est un des grands secrets, et le dernier épisode s'appelle justement le nom du docteur, The Name of the Doctor.
Et sans spoiler, est-ce qu'on le connaît ou pas?
Non.
Ah, merde.
Bon, sans doute. Hein. C'est pas du spoil, ça, sans doute.
Oui.
Mais voilà, donc, déjà rien que ça, ça donne un... Et puis il y a pas mal d'autres choses. Mais pour vous situer dans le dernier épisode, ça je peux le dire sans spoiler, on parcourt notamment, et ça c'est à mon avis en prémisse de l'anniversaire qui va arriver, un des personnages, je vais pas dire lequel, parcourt toutes les époques du docteur, et on voit tous les anciens docteurs, donc les 10 précédents, qui sont réintégrés dans la série, on va dire. Maintenant, certains épisodes ont assez mal vieilli, donc malgré les effets spéciaux, c'est pas toujours très évident à intégrer. Donc ça, c'est pas toujours des plus réussis non plus. Parce que bon, 1963, quoi, quand même. Et on découvre notamment le départ du docteur de sa planète d'origine avec le TARDIS de Gallifrey, donc on découvre ce genre de choses, voilà, c'est quand même... Il y a des choses à découvrir, il y a... Voilà, je le recommande, celui-là.
Faudrait que je m'y remette à la saison 7, hein, franchement.
Est-ce qu'on y voit la forme originale du TARDIS?
Ah oui.
Non.
Mais c'est quoi le TARDIS?
C'est le vaisseau, donc la cabine de police.
D'accord.
Qui lui permet de voyager.
Ah.
Et on sait pourquoi, pourquoi ce TARDIS-là, par contre.
Ah, cool. Même si on suppose déjà, ça a déjà été plus ou moins expliqué dans certains épisodes.
Pas oui, cool. Voilà, il y a déjà pas mal d'explications à grappiller un peu partout, mais là, ça acte les choses, quoi. Et alors, on voit aussi que sa nouvelle compagnon, justement, ça, on en parle dans toute la saison 7, et d'ailleurs, au passage, c'est un petit peu rabat-joie, c'est ça qui permet pas non plus que le personnage ait une grande substance. C'est qu'au final, sa nouvelle... donc Clara, sa nouvelle compagnon, c'est la fille impossible. Ça, on en parle tout du long de la saison. Elle est juste ça, en fait, et on n'arrive pas à s'y intéresser plus au-delà de ça et à voir un personnage naître. Et on découvre, justement, à la fin, pourquoi c'est la fille impossible. Ce qui fait, parce que ça, c'est pas un spoil, on le découvre dès le début, ce qui fait qu'elle est morte plusieurs fois, à plusieurs époques différentes. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de cette...
C'est vrai que le fil rouge de cette saison a l'air quand même moins consistant que ceux des précédents.
Oui, bah c'est exactement ça la réflexion que je me suis faite. Je suis même, première fois sur la série Doctor Who depuis 2005, je me suis ennuyé devant certains épisodes. J'ai décroché. ça, c'est le drame, là. Mais
est-ce
malgré
que sur...
tout...
Pardon, juste sur cette saison, il n'y a pas Moffat qui a pris ses distances?
Non.
Il est toujours là, c'est toujours lui qui fait le travail.
Justement, c'est lui, il fait même plus maintenant. Mais oui, c'est lui qui est vraiment aux commandes, qui est scénariste en chef, qui chapeaute tout. Et pour le coup, justement, je suis un peu déçu parce que les épisodes qu'il avait réalisés dans les précédentes saisons étaient quand même parmi les meilleurs. Et ici, pour le coup, il s'occupe d'une saison entière et voilà quoi. J'ai l'impression qu'il tient pas sur la durée, qu'il a tout misé sur le début et la fin. Et au milieu, c'est du remplissage, quoi.
Ah, c'est dommage.
Enfin, c'est la sensation que ça m'a donné.
C'est vraiment dommage.
Ouais, surtout que ça commençait pas trop mal. Si toi, t'as vu les deux premiers, tu dois...
Bah, celui, le deuxième avec les dinosaures, je me suis un peu ennuyé, quand même.
Oui, ouais, bah déjà là, voilà. Par exemple, ça, c'est un des one-shots avec Rory et avec... Oh, je n'arrive jamais à son nom, c'est extraordinaire aujourd'hui.
Amy.
Décidément, les Pond. Oui, c'est un de ceux, effectivement, un peu... bof-bof, quoi. Et voilà. Ah oui, petite chose que je me suis rendu compte en parlant, j'ai pas arrêté de dire 3 épisodes, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est 5. C'est au 5e qu'il disparaît, donc ça laisse encore moins de temps justement à la nouvelle compagnon de s'installer.
Il y a combien d'épisodes? 10? 13?
13.
Ouais, une petite saison quand même. Enfin, une petite saison, c'est une saison normale en Angleterre en tout cas.
Oui, voilà, mais pour le coup, c'était déjà les 5 premiers qui sont consacrés aux anciens. Voilà, bof bof.
Ah, tu m'as un peu refroidi là.
Ouais,
mais je pense que je regarderai quand même. Mais...
Ceux qui n'ont jamais vu Doctor Who, plongez-vous. Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 si vous voulez. Impeccable. Vous aurez juste peut-être du mal au début de la 5 parce que le 11e Docteur il fait un choc.
Oui.
Ça a tellement David Tennant. Donc celui qui jouait le 9e Docteur, le 10e pardon, était extraordinaire. Enfin, moi je le trouvais. Mais voilà, une fois qu'on a réussi à un peu accrocher à son style. Ça passe tout seul, donc jusqu'à la 6, foncez. Ceux qui ont déjà vu les 6 premières, si vous vous tâtez à voir la 7, bon, allez-y, mollo.
Il n'y a pas de raison, si vous en avez fait déjà 6.
Oui, bah, c'est ça, au final, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai tellement accroché aux précédentes, ici, bah, petit écart de conduite, mais ça m'empêchera sûrement pas de continuer. Quoi. Je continuerai à attendre ma dose de Doctor Who. Je regarderai les prochains les hors-séries, je regarderai le prochain spécial... qui sortira pour les 50 ans, le spécial Noël, et je repartirai sur la saison 8.
D'accord.
De toute façon, moi j'attends la suite de Sherlock. Hein. Rien de
la saison 3.
Ah oui. Ah, ouais. Bénédicte.
J'ai toujours pas vu la saison 2.
Ah, elle est géniale.
Elle est géniale.
Mais j'attends que ma chère étendre soit motivée.
Faudra en parler un
petit 4
aussi. Parce...
avec la fin qui est juste
terrible.
Juste terrible.
Et Sherlock, c'est énorme. Mais la saison 3 est sortie?
Non, justement, on l'attend.
Ah, oui.
Je sais même pas si c'est fini de tourner. Mais,
la saison 2 termine tellement sur un cliffhanger énorme que.
Plus sur internet, t'as des milliers de théories là-dessus. C'est super intéressant. Ouais.
Autant de théories que sur la toupie dans.
Ouais.
dans. Aidez-moi.
Dans Inception. Ouais.
Inception. Ce soir, c'est très dur, il me semble. J'ai trop chaud.
Ah,
je te comprends.
Elle est température, faut avoir l'habitude.
Très
pas
bien.
Tout ça.
Et écoutez, je pense qu'on en a fini. On va passer à la conclusion. Alors, on va passer à la conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis déjà. Merci aux invités. Merci d'être venus.
Merci à toi de nous avoir invités.
Ouais, merci pour l'invitation.
Je me tourne vers vous. Où est-ce qu'on vous retrouve, Irslo? On te retrouve où?
Alors, moi, on me retrouve sur Twitter avec Irslo, IRSLO, ou sur Lifetile, lifetile.fr,
oui.
Voilà. Ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Anthony, Monsieur Stark, où
est-ce qu'on te retrouve ? Moi, sur Twitter, donc c'est @ Anthony Stark, donc Anthony sans le A.
Voilà.
H-O-N-Y et Stark, comme les grandes familles que vous connaissez déjà. Et également dans le podcast Geeks sans modération, donc sur geeksansmodération.com.
Avec tes collègues.
Avec Azurman et Seven, toujours.
D'ailleurs, vous avez sorti le dernier épisode sur l'E3
Non, il arrive. Il arrive. C'est tout chaud, c'est encore en cours de montage.
Ah ouais, surtout que l'épisode fait presque 3 heures. Non.
Ah oui, si mais on a. Je pense que Seven aura coupé un peu dans le gras parce que sinon c'est pas possible.
Très bien. Nicolas.
Oui, bah moi c'est sur Twitter aussi essentiellement pour les réseaux sociaux. Donc c'est NoteKirby, N-O-T-K-I-R-B-Y, hein, comme la petite boule rose de Nintendo.
Ouais.
Et ou l'autre, les comics c'est mieux. Ou les aspirateurs, ça marche aussi. Sinon, vous me retrouvez sur le site bipod.be, où on fait plusieurs petits podcasts, notamment des articles, des news. Ici, il y a une actualité, c'est vrai, un peu chargée ces derniers temps avec les différentes conférences. Parce qu'il faut savoir que moi, j'anime donc l'émission Télécom sur l'actu high-tech. Donc, on a parlé dans la dernière de la conférence WWDC d'Apple. On a un podcast jeux vidéo qui s'appelle Encore 5 minutes et on a couvert les conférences de l'E3. Et les notes sont sorties. Petite, non, ouais. Mais ils sont beaucoup plus courts. Quoique, les deux ensemble, ça fait comme 3 heures. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et je fais un petit coucou en passant, c'est très rapide, à mes copains de 24 FPS. Donc c'est le podcast cinéma de Bipod. Parce que voilà, j'adore ce qu'ils font. Et on va peut-être me dire que je suis parti pris pour le coup, parce que c'est sur notre site. Mais franchement, je vous invite à l'écouter. Ils décortiquent les films et c'est vraiment génial pour les amateurs de cinéma.
Et il faut avoir 3 heures devant soi, par contre, pour écouter un épisode.
Ah oui, ils y vont de main morte, ça c'est clair, mais bon, tu peux les écouter en plusieurs fois. En plus, ils divisent. Ils font une partie sans spoiler, et puis ils donnent un signal sonore, et ils attaquent la partie avec spoiler. Donc c'est pas mal.
Très bien. Bon, pour l'émission, vous pouvez la retrouver sur www.leséclaireurspodcast.com. Vous trouverez le flux, le lien à iTunes, le Twitter, donc @leséclaireurs, donc les_éclaireurs. Et on se quitte avec Back in Time, Huey Lewis and the News. Eh oui, j'avais envie de gagner ça. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour un éclairage. D'ici là, jouez bien, lisez bien, tout ça. Et salut, à dans 2 semaines.
Salut tout le monde.
Ciao.
Salut, bisous.